le silence, silence, c'est pas trop bon. Rien du tout. Là, là, il y a du bruit. Là.
Bonsoir et bienvenue dans Récréation Sonore. Ce soir, je reçois Sophie Ducigne, 2 ans après son dernier passage dans l'émission, lors duquel elle nous avait présenté Deus Ex Machina, une étonnante série documentaire consacrée aux grues de chantier. Elle revient aujourd'hui, Sophie, nous présenter Qui commence, une série de 4 portraits d'auteurs, dessinateurs de bandes dessinées, qui y racontent les pensées qui les traversent au moment de poser le crayon sur le papier.
There is no such thing as silence.
Le silence n'existe pas.
Something is always happening that makes a sound.
Il se passe toujours quelque chose qui produit un son.
Récréation sonore. Sur Radio Campus Paris.
Donc je suis Sophie Ducigne, je suis autrice, scénariste, directrice artistique également. Et nous allons écouter Qui commence, une série de portraits sonores issus d'une exposition qui s'appelle Ligne de départ, de laquelle j'étais commissaire d'exposition. Au cœur du Festival international de bande dessinée d'Angoulême. Cette année, le Festival d'Angoulême, le Festival international de bande dessinée d'Angoulême, m'a demandé d'intervenir pour une exposition de création qui était assez inédite. C'est-à-dire, c'est un lieu, qui est l'espace Nouvelle Création, qui a été imaginé spécialement cette année comme un espace dans lequel on allait avoir des œuvres créées spécialement pour l'occasion, sur un thème bien spécifique. À cette époque, je travaillais déjà sur un sujet qui est celui des faux départs. Je menais une enquête pour écrire des fictions, des petites nouvelles, mais également je commençais à enregistrer des athlètes et à me renseigner sur cette règle des faux départs dans l'athlétisme et également en natation, qui m'a passionnée toute l'année parce que je trouvais qu'il se jouait là quelque chose d'assez vertigineux. Donc j'étais en train de creuser le sujet donc, de la règle des 100 millièmes de seconde qui sanctionne un athlète s'il part trop vite avant la course. C'est vraiment cette chose-là que je travaillais en documentaire et en étant produite par Arte Radio qui m'a accompagnée cette année. Et nous sommes allés jusqu'à un documentaire de 20 minutes d'ailleurs qui est apparu cet été, qui s'appelle « Faux départ, les athlètes en équilibre ». Déjà, moi, j'ai une expérience dans l'image. On travaille vraiment depuis toujours dans un rapport assez ténu texte-image. J'ai une formation de directrice artistique et je travaille principalement depuis dans l'écriture sonore, le scénario, mais avec toujours ce jeu de quelle est l'image dans le texte, qu'est-ce qui se cache dans les hors-champs, dans ce que les mots ne montrent pas et dans ce que les images taisent. Tout ça pour dire que c'est un petit peu avec cette idée de me remettre en scène en tant que directrice artistique aussi, qu'on m'a demandé de diriger cette exposition de création avec un thème libre. Et le thème, tout naturellement, a été « Ligne de départ ». Avec Marguerite Demouette, qui est la directrice artistique du festival et qui m'a accompagnée donc pour ce commissariat, on s'est dit qu'on allait demander à des auteurs-illustrateurs d'investir non pas la course et non pas le sujet des athlètes en soi, mais ce qui serait la ligne, c'est-à-dire le juste avant la course. Donc ils ont eu une carte blanche, chacun, avait un espace mural sur lequel exprimer une petite fiction, donc inédite, avec du texte, des images, mais si possible des grandes images, c'est-à-dire on sort complètement de la case de la bande dessinée. Et donc ils ont créé des petits mondes très différents pour raconter la ligne de départ. À côté de ça, il s'agissait de les questionner eux-mêmes sur leur rapport au début, au commencement d'une œuvre, et comment se positionnent-ils, presque comme des athlètes finalement, pour réussir leur début. Je les ai interrogés, 4 entretiens sonores, de Jérémy Perraudot, Chloé Wary, Lisa Blumen et Nina Le Chartier. Et j'ai fait des petits montages de 6 minutes autour de leur récit. Ça s'appelle « Qui commence ?», leur récit des débuts. Et ces portraits sonores étaient diffusés sur les panneaux de l'exposition via des petites enceintes vibrantes qui étaient collées derrière le bois. Je leur ai demandé de me raconter leur ligne, leur départ donc, et les débuts d'une création. Alors évidemment, il y avait des parentés avec cette position de l'athlète, pourquoi pas de la répétition, des rituels et de préparation même physique et fétiches, avec des fétiches parfois pour certains. On a pu parler un petit peu de sport, de parler de ce qu'ils avaient en commun ou pas. Mais chacun pouvait me dire quelles étaient les musiques qui les entouraient, effectivement, s'il y avait des aliments, des postures. La façon dont ils étaient assis, donc vraiment physiquement, comment on se fait mal au dos, est-ce qu'on marche, comment on essaye de dompter un petit peu ce corps. Il parlait beaucoup de la souffrance du corps, d'ailleurs, d'un auteur, autrice ouais. De bande dessinée qui a vraiment des problèmes de dos très souvent, d'être figé aussi longtemps. Presque dans le sensoriel aussi, qu'est-ce qui se passe dans les débuts, dans l'atelier autour d'eux, ce qu'ils écoutent, ce qu'ils boivent, ce qu'ils mangent. Et voilà. Mais également, de façon en prenant un peu plus de hauteur aussi, de se dire est-ce que... Jérémy Perraudot, par exemple, lui, a travaillé sur une course de vaisseau. Ça s'appelait Circuit Alpha et il s'est dit qu'il allait tirer au dé une course de vaisseau, décomposer un inventaire de formes, de règles, de pilotes, de trajectoires et avec vraiment un jeu de départ aléatoire.
Le temps du début, c'est un temps qui se dilate beaucoup. Il peut y avoir vraiment au départ des fulgurants sur certains aspects, puis d'un coup des moments de lenteur.
Ligne de départ.
Mais où tout est lié en fait.
Leur ligne, leur départ.
Bêtement, j'appuie très fort avec mon crayon.
Le moment juste avant.
Ma table de bureau qui a une hauteur.
Jérémy Perraudot.
Suffisamment haute pour pas trop me flinguer les lombaires, j'ai un aspect presque fonctionnaire, je vis à peu près à la même heure au matin, je repars à la même heure au soir et je me pose à ma table que j'ai une quantité de travail à faire ou beaucoup moins. J'écoute beaucoup de bandes sonores en fait, de films et de jeux vidéo, mais parce que dans ce genre de morceaux en fait, je trouve qu'on sent quand même que y a un intérêt musical mais ça se raccroche à autre chose. C'est un espace de projection. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que du coup, moi, j'y projette moi-même des choses, en fait. Dernièrement, vu que je réfléchis à un projet qui a une couleur beaucoup plus SF, là, en ce moment, j'écoute beaucoup la bande originale d'un jeu qui s'appelle Citizen Sleeper. J'adore imaginer et créer des mondes, et du coup, ça c'est un point de départ pour le coup de la plupart de mes projets. J'imagine le monde dans lequel va s'inscrire l'histoire, ses règles. J'adore dessiner les planches, me perdre dans le dessin, mais pour moi déjà dans le dessin d'une planche, on est déjà dans une sorte de finalité. Je vais plutôt avoir presque une sorte de relation, un peu comme si j'étais face à un problème mathématique en me disant « Non mais il y a une solution, il faut juste la trouver. » quoi. Et du coup, en fait, je pars d'une idée, d'une envie initiale et même si ça ne fonctionne pas en l'état, j'essaie de retourner le problème, je l'abandonne pas forcément. Quoi. Je vis quelque chose avec une autre œuvre, on va dire, et je projette tout de suite un peu de comment elle va évoluer, comment ça va se transformer. Puis bien souvent, c'est pas le cas parce que l'auteur de cette œuvre est parti dans sa direction à lui. Mais par contre, moi, ça a déclenché en moi une sorte de déclic. Le début du vieux film La planète des singes, assez fou. Bah, en fait, le titre annonce quelque chose, La planète des singes. Donc il y a cette arrivée de cet équipage qui se réveille dans mes souvenirs, ils marchent dans le désert, et en fait les singes on les voit mais extrêmement tardivement en fait. Il y a cette espèce de tension du coup qui monte, et qui est juste liée à l'absence. Ce qui se passe dans le hors-champ là, et pour le coup dans la tête du spectateur, c'est un truc qui me parle quoi d'un coup là, ce qui se passe. À chaque fois que je travaille sur un nouveau livre, j'ai toujours la peur de me répéter et du coup le désir d'aller ailleurs. Quand une fois que j'ai fini un livre, je le relis et puis je me rends compte en fait qu'il est dans une continuité exacte des précédents, et même si les histoires n'ont rien à voir et ne se suivent pas, je me rends quand même compte qu'il y a des thématiques autour de l'exploration, de la découverte de l'inconnu, de qu'est-ce que ça fait quand l'être humain il rencontre un autre territoire, comment il peut se l'accaparer. C'est des objectifs, des lignes de mire quoi, qui peuvent m'accompagner sur un projet. Il y a un gros rapport avec la géométrie, les des formes très froides, mais à la fois, quand on y regarde de plus près, je suis incapable de faire un cercle qui se tient bien. Il y a une sorte de petite mollesse un peu partout. Les perspectives, elles sont jamais vraiment bonnes. Et du coup, il y a une sorte de fragilité quand même derrière qui vient à l'encontre un peu des éléments représentés. Du coup, bêtement, j'appuie très fort avec mon crayon. Je suis très crispé au niveau de ma main. Quand je dessine au crayon de bois, en fait, ma ligne, elle est quasiment noire. En fait, j'ai du mal à dessiner très doux et avoir juste une sorte d'esquisse fantomatique sur laquelle je vais venir ensuite faire une itération. Moi, j'aime bien travailler entre guillemets sous contrainte avec une palette d'outils réduite et du coup de dessiner avec juste du trait, avec juste de la ligne. Y a peu d'alternatives en fait. Oui, soit c'est du noir, soit c'est du blanc. Même mes planches de recherche, etc., je vais les faire avec un crayon qui va quasiment être le crayon avec lequel je finalise mes planches, en fait. Il n'y a pas de plein et de délié selon la force avec laquelle j'appuie sur mon crayon. Comment je l'imagine demain ? En fait, j'aimerais pouvoir réussir à l'épurer, à quitter un peu le fait de tout cerner, de réussir à casser un petit peu le fait qu'elle soit continue, de mettre un peu du vide dedans.
Qui commence ? Jérémy Perraudeau, spécialiste des grands voyages dans les univers lointains, mais qui sont en fait des grandes introspections anthropologiques presque, avec une ligne plutôt assez hypnotique, une ligne assez nette, mais qui fourmille de détails et qui finalement n'est pas si nette et crée des petites des sortes de vibrations, enfin en tout cas des traces à décrypter. Et c'est vraiment ça son sujet, c'est comment on a très souvent un héros qui est catapulté dans un nouveau monde, on ne sait pas trop si c'est archaïque ou si c'est futuriste d'ailleurs, mais évidemment ça raconte également un voyage intérieur, une exploration introspective. Souvent ça commence par une chute, lui, ses histoires, c'est quelqu'un qui tombe, et puis après qui doit s'adapter à quelque chose. Donc moi j'adore ces entrées en matière. Et évidemment, sa ligne nous intéresse aussi, puisqu'elle est obsessionnelle et elle cherche l'infiniment petit, voilà. Lisa Blumen a travaillé sur les athlètes influenceuses. Donc on était vraiment sur une réelle enquête qu'elle a menée sur ces sportives qui vont énormément se montrer dans les salles de sport avec des visuels très codés. Enfin, l'ultra préparation des corps, la maîtrise du miroir, donc les codes et l'éthique un peu de ces athlètes influenceuses. Et elle en met une en très très gros plan sur une ligne de départ et elle invite une sorte de sanglier totem qui va, voilà, elle crée une échappée.
Je déteste la compétition, vraiment. Je préfère faire un faux départ que de vraiment me stresser à partir.
Ligne de départ.
Ah oui, complètement. Je préfère saboter que de gagner, que de participer même.
Leur ligne, leur départ, le moment juste avant.
J'essaye de pas avoir de rituel de gris-gris.
Lisa Blumen.
Je veux pas que ça devienne un truc de superstition et de pas réussir à me lancer parce que j'ai pas telle marque de café ou telle. Sinon, moi, je travaille le matin. J'ai aucune idée passé 14 heures. Plutôt, moi, l'idéal pour moi, c'est un bureau haut. Voilà, c'est à peu près ma seule condition, un bureau haut, peu importe la chaise après, mais faut pas que je sois recroquevillée parce que sinon je peux pas travailler longtemps. J'ai vraiment besoin d'avoir des musiques qui représentent exactement l'état d'esprit dans lequel je dois me plonger à chaque fois que je dois travailler. C'est bête, mais Radiohead, à chaque fois, ça me met toujours dans le mood de mon travail, j'ai l'impression, enfin pas tout, mais pour Astronova, c'est How to Disappear Completely. Et c'est vraiment son histoire à Stranova qui veut disparaître dans son travail et plus exister pour les autres. Je crois que justement, pour la période d'écriture, je suis mieux pas chez moi. Après, pour le dessin, j'ai besoin de mon atelier, mon bureau pour pas avoir mal au dos, mes feutres placés à un certain endroit. Donc ça, j'ai besoin d'ordre. Mais pour le début, il faut juste que je sois dans un lieu calme et coupé du monde. Mais je sais pas, par contre, je sais pas comment exactement quelle est la lueur d'espoir qui me fait me lancer à chaque fois dans un projet. C'est peut-être ça un peu la seule magie créatrice, c'est le moment où tu te dis que tu vas y aller alors que t'as pas envie, que tu viens de terminer une BD, que tu te dis la BD c'est trop dur et plus jamais, et qu'en fait tu le fais quand même. Je sais, mais ce moment-là, ouais. Les points de départ, c'est un peu dur de délimiter précisément à quel moment ça a commencé. C'est plutôt une obsession, j'ai l'impression. C'est quelque chose qui me reste en tête depuis tellement longtemps que j'ai envie d'écrire là-dessus. Un des trucs que je fais là depuis quelques temps, c'est de pas écrire mon idée et de la laisser maturer pendant plusieurs mois, voire même un an. Et sans rien écrire dessus pour être sûre qu'elle me reste en tête. Et si je l'oublie, c'est que c'est une mauvaise idée. c'est que j'ai pas envie de le faire. J'adore lire comment les autres créateurs se lancent. Je trouve ça toujours très inspirant, c'est vrai. C'est peut-être le truc qui peut me booster un peu, c'est de savoir comment d'autres font et comment aussi eux ils doutent. Au tout début, je conscientise pas du tout que je suis en train de faire ce projet, que je suis en train de faire un projet. C'est peut-être ça, en fait, ma façon de marcher, c'est de vivre dans le déni. C'est de vivre dans le déni que, en fait, toutes les recherches et tout pourquoi je pense à ça, c'est parce que ça va être un prochain projet. Bon, là, spontanément, je dirais un début de belle histoire d'amour, quoi. Les débuts d'une relation, il y a un truc très magique quand tout paraît tellement facile et que c'était comme si c'était évident. C'est peut-être ça, pour moi, le plus beau départ. C'est quand on n'a pas l'impression que ça démarre, que ça a toujours été là, peut-être. Non, c'est vraiment que le début. La fin, pour moi, c'est pas important. Justement, dans mes histoires précédentes, c'était pénible de faire la fin. Les révélations soudaines, ça m'intéresse vraiment pas, parce que pour moi, ce qui est le plus... Enfin, comme je disais tout à l'heure, c'est pas l'action qui m'intéresse, c'est comment la préparation de quelque chose, comment un événement a fait qu'il devienne inévitable, en fait. Et c'est dans la préparation dans le, que c'est intéressant. Et du coup, si tout se retourne à la fin, par exemple, toute l'histoire sert à rien pour moi. J'ai des lecteurs qui me demandaient qu'est-ce qui se passe du coup à la fin? Et je me dis, mais je m'en fiche. Mais en fait, ce qui est amusant, c'est que dans les deux histoires précédentes, là, Avant l'oubli et Astranova, c'est des histoires de avant l'histoire. Ça se passe avant l'action, en fait. C'est donc avant la fin du monde, avant le départ. En plus, dans le côté même un peu blockbuster de science-fiction, on veut voir la fusée, on veut voir la fin du monde. Et ben, moi, je suis allée dans le constat, pas le constat, l'histoire inverse, de parler de tout ce qui se passe avant, du moment où on se sent un peu con avant la fin du monde et qu'on ne sait pas quoi faire, du moment où on remet en question juste à la dernière minute son envie, tout son chemin de vie et tous ses choix dans sa vie. Ça ne m'intéresse pas vraiment l'action dans les histoires. Ça ne m'intéresse pas vraiment de savoir comment Bruce Willis va sauver le monde. Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi déjà Bruce Willis il veut absolument le faire. Pourquoi et tous les autres gens, pourquoi eux, ils n'ont pas pu le faire. Et pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, et tous ces questionnements-là de l'avant, de la préparation, je les trouve plus intéressantes, en fait, parce qu'elles vont expliquer l'action. Enfin, les scénarios de blockbuster, c'est juste la conséquence de quelque chose qui s'est passé avant, finalement. J'aime pas quand la ligne est trop lisse et quand elle est, encore une fois, trop parfaite. J'aime bien que ça soit inégal. J'aime bien d'avoir des dessins un peu plus bancals et d'autres... parce qu'ils m'importaient plus, parce que j'ai pris plus de plaisir à les faire, qu'on sente qu'ils soient mieux, plus aboutis, plus techniquement forts. Et j'aimerais bien garder ça. J'aime bien le fait de ne pas être très très bonne en dessin. Je trouve que dans le dessin, c'est super important qu'on n'arrive pas à faire exactement ce qu'on veut, parce que ça voudrait juste dire imprimer une image mentale. Enfin, c'est drôle parce que c'est un peu ce que font les IA maintenant. Et que justement, je trouve que c'est ça le truc qui, pour moi, pourra jamais marcher, c'est que c'est dans les ratés qu'on arrive à trouver quelque chose auquel on ne s'attendait pas, et ce qui nous pousse à faire la suite, c'est dans l'insatisfaction et dans l'énervement que je trouve que naît quelque chose de beau et d'imparfait et d'humain. Moi, ça m'intéresse beaucoup, cette idée de rater, parce que je trouve que c'est la meilleure chose qui puisse arriver à quelqu'un, c'est de rater. Ouais, bah, par exemple, dans Astranova, il y a des passages sans ligne, des moments de rêve, c'est que du feutre. Il n'y a plus de ligne. Mais techniquement, je ne me trouve pas très forte pour ça. Mais en fait, quand il n'y a plus de ligne, ça me permet de sortir de l'histoire et de faire purement des belles images, des images pour le plaisir. Pour moi, ça veut dire ça, plus de ligne.
Qui commence ? Et évidemment, je leur demandais aussi de raconter la ligne, puisque dans le sujet graphique, on devait obligatoirement voir une ligne pour l'exposition ligne de départ. Donc, c'est-à-dire, elle pouvait être d'ailleurs complètement distordue, ou bien en très très gros plan pour Lisa Blumen, ou bien elle devenait un gouffre dans lequel se jeter, donc pour le travail du danseur qui va se lancer pour Chloé Wary. Mais chacun donc, avait vraiment dû se dire qu'est-ce que va être la ligne dans mon travail graphique. Et donc, je leur demandais aussi quel est votre rapport à la ligne dans cette histoire de qui commence, comment vous commencez. Et donc là, c'était intéressant, puisque qui parle de ligne parle en effet de moments décisifs. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse, hein, c'est de se dire, est-ce qu'il y a un... Qu'est-ce qui fait que c'est le bon moment, voilà, l'instant décisif, pour se lancer dans une œuvre? Comment on reconnaît que c'est le bon moment, à la manière que l'athlète va reconnaître que là, il part exactement dans le coup de feu pour ne pas se planter. Comment, qu'est-ce qui fait que tout est rassemblé pour un auteur, autrice, pour que le début soit un bon début. Lisa Blumen, une auteure des départs. Alors, elle est fascinée par la préparation. Et surtout, ses recherches sont, on va dire, au bord de la science-fiction, mais elle travaille vraiment sur ce qui se joue avant. Elle va souvent créer des tensions dans ses recherches autour de « il va se passer quelque chose d'inéluctable ». Avant l'oubli, on est face à l'imminence de la fin du monde. Et qu'est-ce qu'il va se passer entre les personnages pour sauver ce qu'il reste à sauver? Une épicière qui va vendre sa dernière boîte de haricots, une commissaire d'expo qui va sauver des œuvres, lesquelles? Et on est dans une sorte de panique comme ça de comment on réagit face à quelque chose de terrifiant. Il y a un autre album, Astra Nova, qui... Et très fort, puisque c'est l'histoire d'un grand départ. C'est une astronaute surentraînée qui doit partir très longtemps pour une mission spatiale vers une comète. La question se pose de l'ultime grande fête qu'elle va essayer de faire en rassemblant ses amis, ou en tout cas, pour essayer, elle se force à créer cet adieu, mais qu'elle n'arrive pas à vraiment honorer, enfin qui est assez déconcertant, justement. Comment est-ce que, à quoi on dit au revoir, et quel est ce grand voyage, justement, qu'elle va faire. Donc Lisa Blumen, elle travaille au feutre, elle a des couleurs assez pastels, et puis voilà, donc elle a vraiment cette grande force pour parler de l'intime, et justement c'est vraiment une science-fiction, mais qui est ultra centrée sur des choses intérieures. Pour Chloé Wary, on était dans le corps d'un danseur de hip-hop juste avant qu'il se lance sur la piste. Quelqu'un qui était presque au bord d'un gouffre, enfin, qui allait sauter. Voilà. Elle a travaillé sur les yeux fermés de ce personnage, les yeux ouverts, et sur comment ce temps-là a été un peu diffracté. Elle a détaillé vraiment le corps en suspens, l'adrénaline et un objectif au loin. Qui m'intéresse, c'est ces endroits ces moments de bascule, on va dire, ces moments de déséquilibre qui sont interrogés, je pense, dans les portraits que j'ai faits pour Deus Ex Machina, où j'essaye de comprendre comment, grâce aux témoins que j'interroge, j'essaye de comprendre comment elle tient cette machine si puissante, si impressionnante, qu'est-ce qui se joue entre l'équilibre des forces contraires, et il y avait ce mot que j'ai trouvé très beau, qui était le moment, qui est un calcul, c'est le calcul du poids de la charge M par rapport à O, qui est l'axe vertical de la grue, voilà, qui fait que on calcule l'intensité d'un moment pour que tout cela tienne. Bon. Aujourd'hui, pour moi, en allant chercher les faux départs, en allant interroger les athlètes et aussi des juges, arbitres, des scientifiques sur le sujet, etc.
Je sais que j'adore quand ça commence fort, quoi. Quand on arrive, on est plongé dans une ambiance, on est plongé presque dans un ring, et y a un truc où t'échappes pas du tout à la situation, on t'a pas contextualisé, t'es un peu paumé, mais du coup t'es à l'affût du moindre indice de ce qui va te permettre de comprendre ce qui est en train de se passer. J'adore quand ça commence comme ça.
Ligne de départ.
Je suis affalée sur ma table de dessin. C'est la pire position pour le dos. Hein.
Leur ligne, leur départ.
Non, je crois que j'y vais solo.
Le moment juste avant.
Alors moi, je suis une meuf, faut savoir.
Chloé Wary.
C'est presque pathologique. Je ne supporte pas les arbitres et l'arbitrage. Et donc, si on est vraiment dans la métaphore, je pense que plus tu vas me dire quoi faire, plus tu vas me dire vas-y, c'est maintenant. Moi, je vais suivre le truc. En même temps, j'ai peut-être besoin de quelqu'un qui me contraint et qui... parce que je vais l'avoir dans mon champ visuel, en fait. Et du coup, c'est peut-être ce qui va me pousser à finalement y aller par moi-même. Je suis une meuf de jour, quoi. J'aime bien mon rythme à la base, hein. Avant d'avoir un bébé qui t'empêche de dormir. J'aime bien bosser du matin au soir. Je suis le soleil, vraiment. J'ai un rythme solaire. Quand il fait jour, je bosse. Quand il fait nuit, je dors. C'est carré, tu vois. C'est les ciels, je crois. C'est un peu cliché de dire ça, mais parce que bon, dans mon bouquin, c'est évident, mais le crépuscule ou bien le lever du soleil. En général, c'est là où le ciel il est soit orange, soit rose, quand c'est pas nuageux. Et là, je me dis, ok, ça va être une belle journée, ou ça a été une belle journée, en fait. Et ça accompagne souvent un moment de belle production, ça. Quand je prends le temps de regarder le décor avant de partir dans le rouleau compresseur de la journée, quoi. Ça me rassure, je crois. Ça me donne envie de raconter le moment, quoi. Je sais pas. Je me dis, ah, ok, le monde est beau, quoi. Donc vas-y, je le dessine. Ça me fait plaisir. Souvent, c'est quand j'écoute un son qui m'enjaille à fond, quoi. Je sens que ça monte, mais c'est toujours accompagné de la musique. Je sais pas pourquoi, il y a toujours un état de transe qui est relié à un morceau où les instrus, elles me mettent presque en égo trip, quoi. Je me dis là, je vais faire du lourd là sur le papier parce que je sens que ça y est, ça monte, quoi. Ça mature depuis tellement longtemps que là maintenant ça va sortir et ça va être ça va être trop bien. C'est vraiment les meilleurs moments, ça. Pour Rosinizou, ça a été beaucoup de PNL. La misère est si belle. Ce morceau-là, il me mettait en transe instantanément, quoi. Moi, je suis pas très rituelle, mais c'est vrai que j'aime bien ma canette de iced tea. En général, c'est mon petit pic de sucre. Clairement, c'est ma boisson d'enfance, d'adolescente, ça. Donc forcément, ça réveille chez moi une émotion très viscérale, en fait, tu vois. Et après, en général, j'aime bien... Avec la musique, avant de me mettre à dessiner, ça me donne envie de fumer, quoi. Mais une clope, hein, c'est pas non plus un truc de ouf, hein. Mais j'aime bien me rouler ma clope à ce moment-là. Le rituel de rouler, ça c'est un vrai rituel. Ça, j'adore. Et je roule parfaitement bien. C'est-à-dire que ma clope, c'est une allumette parfaite. Il n'y a pas de pli sur le papier. Mon filtre, il est bien serré. Et je fume ma clope, j'ai ma canette de iced tea. La misère est si belle. Et je vais me mettre à faire un bon croquis, là, un bon truc, quoi. Je suis affalée sur ma table de dessin. C'est la pire position pour le dos, hein. Je suis à fond, enfin, j'ai le cul bien en arrière, bien en fond de la chaise, comme ça. Limite, je m'octroie, tu sais, 3 minutes 30 de morceaux avant de me lancer, quoi. Je fais durer un peu le plaisir de l'élan. Clairement, c'est ça. Je vais nécessairement puiser dans des choses très personnelles au départ. Parce que c'est là où je vais y trouver du sens, que je vais avoir envie de raconter des choses qui m'ont marqué, des choses qui m'ont forcément fait quelque chose émotionnellement. Je vais aller chercher dans du vécu au début. Et puis après, je pense par souci d'autodéfense, je vais l'enrober de fiction, je vais l'enrober de quelque chose d'un peu plus documentaire. Enfin, je vais aller chercher d'autres récits, d'autres discours. Je suis pas toujours en confiance quand je me mets à dessiner. Pourtant, c'est là où je me sens le mieux et c'est là où je sais que j'ai ma place. Pourtant, à chaque nouveau projet, à chaque nouveau dessin, j'ai besoin de me rassurer. Donc c'est pour ça que les croquis à partir du réel, bah, ça me met en jambes. Et c'est aussi pour ça que je réfléchis beaucoup avant de me mettre à dessiner. J'ai besoin d'en être immédiatement satisfaite. Le plus important, en fait, c'est le match. C'est pas le résultat ni le 0-0 du début. Tu vois, c'est ce qui s'est passé, en fait. Sur le terrain. Hop. Moi, j'avoue que c'est dur pour moi là, d'imaginer la ligne, en fait, parce que je crois que dans ma tête, je vois vraiment la chose comme un espace, que ce soit le terrain de foot ou le carré de lino sur lequel les danseurs dansent. ou même la page blanche, la première page de mon livre. J'ai un peu du mal à penser linéaire. Je crois qu'à la base, la ligne, elle était venue pour aussi discipliner mon espace de travail, mon dessin, quoi. Tu vois, ligne de départ, début, commencement, fin. Il y a un truc même qui rejoint la construction d'un récit. Et j'aurais tendance de plus en plus à sentir et concevoir les choses de manière plus en masse, plus en zone. Et je crois que ça m'intéresse peut-être un peu plus de réfléchir comme ça. C'est-à-dire que voilà, dans tel espace, dans telle masse, il y a tel et tel qui interagissent. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça génère comme nouvelles interactions dans l'espace ? Et si je sors de cet espace-là, qu'est-ce qu'il y a en fait ? Graphiquement, j'ai envie peut-être d'aller explorer peut-être un dessin plus spontané où la ligne évoque plus qu'elle ne définit.
Qui commence ? Chloé Wary travaille un feutre assez flamboyant, des couleurs pop, et est complètement dans la métamorphose, dans le mouvement, dans la transformation. Elle est son terrain d'enquête, c'est la banlieue dans laquelle elle a grandi. Le hip-hop, le sport, une équipe de foot féminine d'ailleurs, dans laquelle elle joue, qui a donné naissance à cet album qui s'appelle Saison des Roses. Elle est très intéressante puisque c'est vraiment le corps qui cherche à prendre sa place quand tout autour se métamorphose, la transformation des territoires, résister... préserver un espace à soi dans des terrains vagues où le hip-hop va essayer de maintenir son terrain coûte que coûte, face à des grues par ailleurs et d'autres invasions. Nina Le Chartier est la quatrième autrice. C'est vraiment plus notre plasticienne, c'est-à-dire qu'elle fait de la bande dessinée, mais elle convoque des techniques mixtes, de la gouache sur papier, du plexiglas, du carton, de la peinture sur bois. Et donc on a des univers assez foisonnants, et elle raconte des choses qui sont souvent des voix off de personnages qui sont des monstres, d'ailleurs, souvent, mais qui cherchent quelque chose, qui... comme des espèces de petites voix intérieures qui parlent énormément, s'auscultent les uns les autres et doutent beaucoup, mais dans un univers complètement cabaret grotesque, avec une faune très bizarre, c'est onirique, c'est très délirant. Elle a également fait L'Invité Fantastique et elle est publiée chez Magnani. Nina Le Chartier a créé le petit déjeuner des championnes, donc on rencontrait des coureurs monstres qui étaient dans leur quotidien, dans une cuisine, une salle de bain, juste avant la course, et qui se racontaient des petits mantras pour se chauffer, se motiver, et puis juste avant d'y aller, voilà. Donc chacun avait ses objets fétiches, il y a des histoires de brosse à dents, d'entraide, de mise en jambes et de petites voix intérieures. Une autre façon, finalement, de raconter sa ligne de départ.
Non, c'est moi qui décide quand est le top départ. Je suis la seule arbitre.
Ligne de départ.
Mais du coup, c'est vraiment l'envie, mon moteur. En fait, j'ai envie de raconter des histoires, j'ai des choses à raconter, et je me force pas.
Leur ligne, leur départ.
Moi, ce que j'aime pas, c'est finir les choses.
Le moment juste avant.
Non, en fait, moi, je vais...
Nina Le Chartier.
Je vais à l'atelier à pied. La marche, le matin, ça met mon énergie pour commencer la journée. J'ai un bureau qui est en bois, qui est plein de taches de peinture, mais ça me dérange pas. Je me sens un peu plus en tension quand je suis sur une chaise en bois dur. J'aime pas les chaises de bureau trop molles où on tourne, où on s'affale et tout, parce que je finis toujours par m'affaler dedans. Parce que moi j'aime bien... Oui, je pense que j'aime bien commencer les choses, mais j'aime pas les finir. Mais je l'ai fini toujours. Mais tu vois, je l'ai fini pas de façon... c'est pas très très poli, très très lisse à la fin. Quand je suis en phase de début d'un projet, c'est un moment où je lis beaucoup de romans et je regarde beaucoup de films. Et en fait, pour moi, c'est un peu comme des béquilles qui m'aident à avancer, parce que je trouve vraiment un socle dans les autres fictions, en fait. Du coup, j'ai pas forcément d'idée ou de thème avant de commencer. C'est plus... j'ai envie de faire, quoi. J'ai envie de me lancer, mais je sais pas exactement ce que je vais faire. Une fois, je suis partie des paysages, et en fait, j'ai pensé à la BD que j'avais fait auparavant. Les paysages de cette BD, c'était dans un hôtel, dans un bus, dans un avion, chez l'héroïne, dans une ville, dans une capitale. Voilà, du coup, j'ai fait la liste de tous les décors que j'avais déjà fait. En fait, j'ai écrit tout ce qui me passe par la tête. Et ensuite, je me suis dit, ok, quel décor j'ai pas encore fait? Et j'ai écrit grotte, rivière, clairière. J'ai dit, ok, y a bien un truc qui va me venir et que je vais avoir envie d'exploiter. J'essaye de faire des listes de choses que j'ai pas encore faites. Je fais des listes de prénoms et des listes de caractéristiques de personnages. Et voilà, et ça continue. En fait, j'ai tout ce processus, j'écris toutes les idées, tout ce que j'ai pas encore fait, tout ce que je voudrais faire. Et je le couche sur papier. Enfin, c'est vraiment un processus pour faire émerger ce que j'ai envie de raconter, en fait. Après, j'ai plein d'éléments qui arrivent comme ça, et j'essaye de boucher les trous entre eux. Par exemple, voilà, je veux faire une histoire qui se passe dans une grotte, je veux faire un personnage qui s'excuse d'avoir fait une connerie. C'est quoi le lien entre les deux? Est-ce qu'il vit dans la grotte? Est-ce qu'il va dans la grotte? Est-ce qu'il a fait quelque chose de cruel dans une grotte? Enfin, je sais pas, j'essaie de trouver les liens. Et l'histoire, elle se construit de pièce par pièce, comme ça. J'ai fini un projet, il est derrière moi, donc je pense à autre chose. J'ai plusieurs mois devant moi où je sais que je vais pouvoir faire que ça. Et j'ai des émotions, où j'ai vécu un truc fort ou quoi, que je peux aussi noter et poser sur mes personnages. Tous les moments sont bien pour commencer, parce qu'en fait j'ai tout le temps envie de faire. On n'y pense pas tout de suite en pensant à mon travail, mais moi, en fait, les questions d'accessibilité et de lisibilité, elles sont vraiment importantes. Donc j'essaie toujours de faire des personnages lisibles, expressifs. Enfin, ça veut pas dire que je me permets pas d'autres choses ou d'expérimenter graphiquement. Parce que je veux que les gens lisent mes trucs, en fait. Donc, mais sinon, moi, je dessine pas très très bien, en fait. Je dessine pas mal, mais j'ai pas un beau trait. Je préfère travailler la masse, les couleurs, les ombres et lumières, les contrastes, etc. Je me mets plutôt par ça, parce que la ligne, je la fais à la fin. Quand je rajoute les traits du visage d'un personnage, c'est ce que je peins en dernier sur un dessin de BD. Quand c'est plus nécessaire d'avoir une ligne pour représenter quelque chose, je fais plus de lignes. Moi, ce que j'aime pas, c'est finir les choses. Parce que je suis pas quelqu'un de très... Enfin, je travaille sur ça, mais moi, je suis pas très minutieuse. Enfin, j'aime pas trop faire attention aux petits détails. Mes scénarios, j'essaye de les... Je me force à les boucler pour que ce soit bien à lire. Mais par exemple, ça se voit au niveau du dessin que... Sur la finition, c'est assez imprécis. Enfin, je suis quelqu'un qui a de la joie, je pense, dans les commencements et dans commencer le travail. Mais du coup, je suis contente de pouvoir partager ça. De maintenir un engagement, c'est là où il y a tous les problèmes qui arrivent. Mais commencer, c'est génial. Mais après, quand tu continues, ça veut dire il y a des problèmes de scénario, il y a des choses qui sont pas logiques, qu'il faut résoudre. Ça, c'est plus compliqué. Bah après, c'est stimulant aussi, mais commencer, t'as toutes les portes ouvertes, c'est génial.
Qui commence ?
C'est aussi cette question de être face à un univers que je connais pas du tout. Le grutier m'apprenait tout, le chantier, évidemment, je n'y connaissais rien, les termes techniques me dépassaient pour la grue, mais finalement, j'essaye de comprendre comment quelque chose, il y a une force et une fragilité là-dedans qui peut nous parler. Et alors, évidemment, l'athlète, j'étais un petit peu comme ça, face aux règles de l'athlétisme, Ah, c'est... je ne suis pas du tout sportive par ailleurs. Mais j'apprenais tellement de choses sur ce... ce face à quoi en étant dans ce moment complètement surdimensionné de la compétition, de l'entraînement de leur corps, etc. Comment eux aussi vont travailler ce moment décisif de partir dans 100 millième de seconde, le rater ou pas. Évidemment, c'est la question de l'échec, après on s'en remet ou pas. Mais pour moi, il y avait le kairos, c'est-à-dire ce dieu grec, qui est celui du moment juste, de l'occasion opportune qu'il faut saisir au passage. On attrape sa touffe de cheveux, s'il passe trop vite et il est représenté par un éphèbe ailé comme ça, qui a juste une touffe de cheveux à l'arrière, donc s'il passe, on saisit l'occasion par ses cheveux et puis on peut rater cette opportunité. Voilà, c'est... Le kairos s'oppose au chronos, ce temps linéaire, et donc je trouve que là on est, et c'est encore une histoire de moment, je trouve que c'est vraiment cette histoire de rupture d'équilibre ou de comment nous on peut comprendre des choses peut-être face au récit des athlètes ou des grutiers.
Il y a deux autres sujets sur lesquels je travaille. Il y a une série audiovisuelle qui est autour de l'argent et des prêts. C'est pas des prêts bancaires, prêts immobiliers, mais presque autour de bras de fer de personnes qui se demandent de l'argent dans un café. Je pense qu'il y a aussi un rapport. Peut-être que c'est un domaine où je peux être un petit peu dépassée techniquement aussi. Enfin, je pense que je vais vers des sujets qui m'impressionnent potentiellement, mais parce que je vais aller voir en quoi, tu vois, deux personnes qui se demandent de l'argent, c'est une histoire de crédit, de déclaration d'amour, de défi, voilà, d'aller chercher des choses cachées. Et un autre sujet qui est celui de la foi et de la religion, mais c'est une pièce de théâtre que j'ai... écrite et qui est lauréate des 5 finalistes du prix des écrivains associés de théâtre, avec une mise en capsule, une première mise en scène au Théâtre de l'Opprimé cet automne. Donc ça n'a pas été édité, c'est pas encore une véritable mise en scène, mais ça sera déjà, une jeune compagnie va s'en emparer. Et donc ça s'appelle Le Train, et c'est autour d'un personnage qui dit adieu à un amour qui s'engage dans la vie religieuse. Je pense que c'est des choses, des enquêtes. En fait, j'aime bien les sujets enquêtes. C'est-à-dire on est en face à quelque chose qui est un peu difficile à comprendre, à saisir, qui est peut-être un petit peu impressionnant, enfin avec, voire même terrifiant, la peur de perdre ou la peur qu'un poids dans un chantier nous tombe sur la tête, je ne sais rien. Et comment on va mener l'enquête, on va essayer d'aller vivre ce moment. De transition, de déséquilibre pour y comprendre quelque chose. Voilà.
C'est la fin de cette récréation sonore. Vous pouvez réécouter cette émission mardi à midi sur Radio Campus Paris en DAB+. Entre-temps ou au-delà, vous pouvez l'écouter et la réécouter et encore la réécouter sur www.radiocampusparis.org et sur toutes les plateformes de podcast, Apple, Google, Spotify, etc. La semaine prochaine, pas d'émission, c'est relâche. Récréation sonore revient dans 15 jours. Salut!
Habe sich noch gut nach Rest. Kann das noch sehr gerne. Récréation sonore sur Radio Campus Paris.
Ну вот, так. Сна, Алиса.